Tout pour investir, la place de l'IMO.
Nous allons parler de leasing, non pas de leasing automobile, mais de leasing immobilier, car oui, ça existe. Bonjour Marie Cœur de Roy.
Bonjour Lorraine.
Nous accueillons sur ce plateau Clara Thérèse. Bonjour Clara.
Bonjour.
Vous êtes aux manettes, cofondatrice de Sésame. Vous avez la formule magique pour ceux et celles qui voudraient accéder à l'immobilier, à la propriété. Voilà, d'une manière peut-être différente. Ça s'appelle le leasing immobilier. Vous nous racontez le concept ?
Tout à fait. Alors, le leasing immobilier, c'est une solution pour devenir propriétaire de sa résidence principale. C'est une solution qui s'adresse à des profils qui sont solvables, mais qui sont prochainement finançables. Et ça va permettre, en fait, d'emménager dès maintenant dans le bien qu'on souhaite acheter et d'avoir la possibilité de différer, en fait, le moment où on va faire sa demande de crédit immobilier. Et donc, on a le temps de se différer pour améliorer son profil emprunteur. C'est somme toute donc une location avec option d'achat et on couple ça avec un accompagnement sur mesure. On va aller travailler différents leviers comme la constitution d'une épargne mensuelle qui va servir d'apport pour acheter, un conseil, un accompagnement dans le choix du bien objet du leasing et bien entendu aussi des conseils sur la constitution en fait du dossier pour la demande de crédit.
Alors avant de rentrer dans le détail, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez dit dès le démarrage. Vous avez dit que c'est des gens qui sont solvables mais pas finançables.
Oui.
Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que ça veut dire que j'ai toutes les cases qui sont ouvertes auprès de la banque, c'est-à-dire que mon boulot tout va bien, mon ancienneté professionnelle, mon niveau de salaire, etc. Sauf que j'ai pas l'épargne qui va avec et donc ce fameux apport qu'il va falloir que je constitue. Mmh. Ou il peut y avoir d'autres cases dans le rouge. À quel moment vous considérez que le dossier peut être mûr incessamment sous peu?
Ouais. Donc effectivement, le manque d'apport, c'est un élément, c'est celui qui revient, je pense, le plus souvent. Mais il va avoir aussi, par exemple, les profils type travailleur indépendant, auto-entrepreneur, créateur d'entreprise, même profession libérale, qui n'ont pas encore assez d'ancienneté professionnelle ou dans leur activité et qui donc ne pourront pas tout de suite prétendre à un crédit. Il y a aussi d'autres exemples, notamment par exemple des aspirants propriétaires qui auraient un petit crédit conso qui reste à rembourser avec une somme qui n'est pas nécessairement très importante mais qui vient bloquer leur endettement.
Sur un dossier, oui. Ouais. Mais donc vous faites ce boulot de la banque. En gros, c'est forcément des gens qui se sont pris un nom de la banque, mais vous arrivez à percevoir que c'est peut-être non aujourd'hui, mais à moyen long terme ou à court moyen terme plutôt, ouais, ça sera oui.
Exactement. On va en fait pouvoir créer une trajectoire d'accession à la propriété et on va pouvoir tracer cette trajectoire et voir à quel moment la personne, dans des conditions qui restent celles qu'elles sont finalement aujourd'hui, donc on ne mise pas sur une promotion, sur un héritage, ni sur gagner à la loto.
C'est dommage. C'est
Et en fait, on va pouvoir voir si telle personne, pour le montant de son projet, va être éligible à un crédit.
Justement, il y a des aléas quand même que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous parliez du loto, bon, j'entends bien que c'est des choses que vous ne pouvez pas prendre en compte. Mais le problème, c'est qu'avec de la location avec option d'achat, quelque part, je me projette dans un bien qui me conviendra peut-être plus quand je serai en capacité de véritablement l'acheter. Ça se passe comment? À quel moment je suis contrainte ou pas d'acheter le bien sur lequel je me suis positionnée en tant que locataire avec la possibilité de l'acheter à moyen long terme?
En fait, on travaille avec des aspirants propriétaires qui sont vraiment dans une démarche d'accession à la propriété. Donc, ce n'est pas des locataires qui se disent « Ah, peut-être que ça m'intéresserait un jour ». Ce sont des personnes qui ont, pour la plupart, déjà entamé leur projet d'accession, qui ont parfois identifié aussi le bien dont ils souhaitent devenir propriétaires parce qu'il correspond à leur situation de vie, à leurs besoins et à leurs projections personnelles. Et c'est vraiment en entamant le projet qu'ils rencontrent ces freins-là. Donc, il y a un engagement qui est très fort
au démarrage,
au niveau du bien qui est choisi. Et dans le cadre aussi du leasing, il va avoir un engagement aussi financier de la part du futur acheteur qui va être demandé. Donc, il va avoir la période locative, si on veut, pour améliorer son profil.
Elle est déterminée en avant, cette période?
Oui, la durée maximale. Alors, c'est assez variable. Habituellement, on est sur du maximum 24 mois, mais on a des levées d'options qui interviennent vraiment très très tôt, en fait, dès que la personne est prête.
En capacité de pouvoir passer à l'acte.
Exactement, elle peut lever l'option donc et devenir propriétaire du bien.
Et alors, du coup, moi, ma question, c'est qu'est-ce que je fais? C'est ce que je disais, qu'est-ce que je fais si, pas de bol ou bol, je sais pas, ça dépend de quel côté on se place, je fais un autre enfant, par exemple, et donc j'ai besoin de plus grand. Ou alors, à l'inverse, finalement, je me sépare et donc en fait, j'ai besoin de plus petit, donc ce bien-là ne m'intéresse plus.
Oui.
Je peux renoncer à cette option d'achat.
Oui. Marie, vous avez peur d'être coincée dans un bien.
Exactement.
Oui, donc on peut. Ça reste une option d'achat, donc on peut effectivement décider de ne pas l'exercer, de ne pas la lever. Et à ce moment-là, on va donc déménager du du bien qu'on occupait. On va récupérer l'épargne qui aura été constituée au fil de l'occupation et on va se diriger vers un autre bien qui correspondra mieux au projet de vie.
Comment vous constituez cette épargne ? C'est-à-dire que moi, locataire, pendant un maximum 24 mois, je verse un loyer plus quelque chose supplémentaire.
C'est ça.
À quoi équivaut le loyer ? Est-ce que c'est celui du marché ? Est-ce que c'est un peu plus élevé, un peu plus faible ? C'est quoi concrètement que ça va me coûter tous les mois en réalité ?
Ouais. Donc au niveau de la part de loyer, on est effectivement peu ou prou sur un loyer de marché. Et au niveau de la part d'épargne, dite acquisitive, en fait, elle va être déterminée par rapport
épargne au... acquisitive. Alors moi, je vais vous décortiquer cette expression parce qu'on parle vraiment d'éducation financière là.
Oui, tout à fait. En fait, c'est d'intégrer l'épargne mensuelle dans le versement de la redevance qui est payée chaque mois pour que l'épargne devienne, j'ai envie de dire, automatique dans le quotidien du futur acheteur. Et mois après mois, cette épargne, elle est mise de côté sur un compte séquestre au nom de cet acheteur. Et c'est ce qui va lui servir à faire l'acquisition du bien. Donc d'où le terme par acquisitif.
Mais bon an, mal an, est-ce que c'est lourd tout ça ? Entre mon loyer de marché plus cette épargne acquisitive, ce qui va me servir d'apport potentiel au moment où je lève l'option d'achat. Est-ce qu'au final, est-ce que c'est pas un peu rude sur mensuellement le coût de mon opération ?
Alors l'idée, c'est de pouvoir bien entendu regarder le reste à vivre, le taux d'effort qui va être fait chaque mois parce qu'il faut que cette situation elle soit faisable pour notre futur acheteur.
Donc vous êtes sur de l'épargne forcée en fait.
Oui, c'est une épargne qui est programmée, qui est tous les mois.
Et le fait qu'elle soit destinée à de l'IMO, ça passe mieux ? Dans notre état d'esprit français ?
Oui, et surtout ça rentre dans le cadre d'un projet de vie. Pour beaucoup de personnes, devenir propriétaire de sa résidence principale, c'est un, sinon le plus gros projet qu'ils vont
entreprendre. On a parlé des profils. Alors, vous avez évoqué, Marie, le profil qui n'a pas beaucoup d'apport. On a parlé des professions libérales, des indépendants, dont on ne parle pas assez, mais qui sont quand même la force vive de notre pays. Il n'y a pas que des salariés. Mais on peut aussi penser aux gens qui sont mal éduqués financièrement. Et c'est-à-dire que, par exemple, des gens qui gagnent bien leur vie ou moyennement leur vie, qui pourraient tout à fait accéder.
Qui brûlent,
qui finalement n'ont pas les clés de la gestion financière basique qui leur permettrait d'acquérir leurs biens rapidement.
Complètement. C'est vrai que la culture en fait de l'épargne, elle va être essentielle pour réaliser n'importe quel projet, notamment celui de devenir propriétaire. Et c'est en ce sens que notre accompagnement qu'on va apporter va pouvoir éduquer sur l'importance de l'épargne, comment la programmer, mais aussi sur le rôle d'être propriétaire parce que on est parfois quand on n'a jamais été propriétaire, qu'on a vécu une grande partie de notre vie en étant locataire, c'est pas tout à fait les mêmes rôles, les mêmes responsabilités.
Bon, Clara, c'est magique hein. Mais en fait le problème c'est qu'il nous faut de l'offre, parce que là on s'est mis dans la peau de ceux qui veulent devenir propriétaires, de ceux qui veulent acheter, mais les vendeurs, ils ont envie d'attendre là, ils ont envie de se dire bon bah ok, je te prends en termes de locataire pendant quelques temps et puis on verra pour plus tard. Moi, si je devais être en position où je dois vendre, parfois je suis même pressée par le temps pour vendre. Comment vous arrivez à les convaincre ? Quelle est cette offre de leasing en fait ? On a parlé de la demande, elle est là, j'imagine bien, mais l'offre elle est où ?
Ouais. Donc effectivement, on a beaucoup de demandes de la part d'aspirants propriétaires. Donc on a plus de 10 000 demandes de la part de familles qui veulent devenir propriétaires de leur.
Votre boîte, votre entreprise a 2 ans.
Ouais. Presque 2 ans. Et donc, on a près de 10 000 demandes de familles qui veulent devenir propriétaires par le biais du leasing. En revanche, on a effectivement un manque d'offres de logements disponibles.
Concrètement, vous en avez combien en face de ces 10 000 ?
On a à peu près une petite centaine de logements qui ont été soumis par des vendeurs.
Là, ça devient presque les statistiques du loto.
Ouais. Et donc, en ce sens, eh bien, effectivement, on va travailler avec des vendeurs qui soient professionnels, type société de gestion, bailleurs, foncières, même promoteurs, ou des vendeurs particuliers, pour pouvoir créer cette offre de logement disponible. Et en fait, il y a plusieurs avantages. Vous demandez comment est-ce qu'on convainc finalement ces vendeurs-là de passer par la vente en leasing. Il y a plusieurs avantages, surtout dans le contexte actuel où on a des délais de vente qui s'allongent beaucoup. Il y a souvent, j'ai envie de dire, une perte de valeur qui est associée à ce délai assez long. Et on parle même pas des coûts en fait d'entretien ou de conservation d'un bien qui est pourtant vide. Taxes foncières, charges de copropriété.
Et pour peu qu'on ait un prêt relais aussi.
Et oui. Donc l'avantage en fait, les avantages de la vente en leasing pour un vendeur, ça va être notamment de pouvoir fixer son prix de vente et son horizon maximal de vente.
Parce qu'on le fixe au démarrage et il ne bouge pas.
Ouais, il ne bouge pas, donc ce sera maximum par exemple 12 mois ou 24 mois selon la durée qui sera déterminée.
Ouais.
Tous les mois, le vendeur va donc recevoir un loyer garanti qui n'est pas déduit du prix de vente. Il ne paiera plus de charges parce que donc l'occupant, le futur acheteur qui occupe le bien, c'est lui qui va prendre en charge la taxe foncière, les charges de copropriété si c'est une copropriété, tout ce qui va être menus travaux, entretien du bien, enfin eau,
d'autant que son but ultime à lui c'est de l'acheter, donc quelque part il va faire forcément de l'effort pour justement entretenir le bien.
Absolument, il s'y projette comme étant sa résidence principale, donc ouais. Il fait beaucoup plus attention. Ensuite, il y a un autre élément qui est assez intéressant pour ceux qui vendent leur résidence principale. En fait, la vente en leasing permet de conserver la fiscalité de la résidence principale quand on vend cette dernière. Donc, il n'y aura pas d'impôt à payer sur la plus-value quand on vend sa résidence principale en leasing.
Et comment on est taxé sur les loyers qu'on gagne ?
Ça va dépendre. C'est un revenu locatif, ouais. Et ça va dépendre de
notre tranche marginale d'imposition.
Bon, alors, exactement. Une question quand même. Et vous ? Comment vous gagnez de l'argent ? C'est quoi le business model de Sésame ?
Donc, nous, on va prendre un frais de mise en leasing, donc côté vendeur, qui est de 1% du prix du bien. Ce pourcent, il est payé au moment où l'acheteur il est sélectionné, donc au moment où il va emménager dans le bien. Sésame va aussi prélever une gestion du leasing sur les loyers qui vont être versés donc tout au long de la
location. Ouais.
Exactement. Et... on va se rémunérer sur une partie aussi de l'option d'achat. Au moment où l'acheteur va effectivement devenir propriétaire. Et donc, en ce sens, on a un alignement d'intérêt complet avec l'acheteur dans son projet de devenir propriétaire.
J'ai quand même une question pour revenir sur l'offre. Ouais. Comment ça se passe, du coup? Moi, je suis intéressée. Mon rêve, c'est de devenir propriétaire. Tous ceux qui nous écoutent et tout, qui nous regardent depuis 10 ans le savent. Je le sais toujours.
Ceux qui nous regardent depuis 3 mois. Tout le monde est au courant.
Comment je fais ? Je dois aller chasser un bien qui m'intéresse et je vous l'apporte. Je vous dis, voilà, j'ai trouvé l'appartement, la maison de mes rêves et c'est vous qui allez aller négocier avec le vendeur en disant, je vous assure, elle est super, vous lui louez pendant 1 ou 2 ans et ça va le faire, machin. C'est moi qui négocie. Comment ça se passe pour cette mise en relation, très concrètement ?
Alors, soit des vendeurs vont venir à Sésame et donc avec le désir de vendre leur bien en leasing et dans quel cas, nous, on va pouvoir proposer à des accédants qui sont déjà inscrits dans notre base. Ou alors, effectivement, comme vous disiez, le futur propriétaire va pouvoir aller à la recherche du bien qui correspond à ses besoins dans le cadre du budget qui aura été déterminé pour son projet. Et c'est Sésame, du coup, qui mettra en place le leasing avec le vendeur.
Est-ce qu'il y a un côté testé avant d'acheter ? C'est-à-dire, est-ce que c'est nécessairement ces loueurs avec option d'achat, est-ce que c'est nécessairement des gens qui peinent à obtenir le crédit immobilier ou est-ce que ça peut pas être des gens qui ont juste envie de tester le bien, la copro, le voisinage, la proximité avec les commerces, les écoles, le travail, etc. Est-ce que vous avez de ces profils-là aussi ?
C'est vraiment des personnes qui veulent devenir propriétaires et donc qui ont choisi un bien, qui s'y projettent. C'est un processus aussi de choisir un bien donc qui correspond à la fois géographiquement au lieu qu'on veut, en termes de caractéristiques du bien, par exemple si on a 1, 2 enfants ou pas d'enfants, ou est-ce qu'on est proche du travail, etc. Donc c'est vraiment des critères qui sont mûrement réfléchis, qui prennent du temps à choisir. On n'a pas de curieux qui vont vouloir tester avant d'acheter, même si oui, concrètement, on a l'opportunité d'y vivre avant de demander son crédit et donc de passer à l'acte d'achat. Mais le comportement n'est pas celui-là.
Il n'y a pas de, comment vous appelez ça, le porn immobilier ?
Ah, le real estate porn. Mais alors, normalement, c'est plus sur l'immo de prestige, mais c'est juste, hein, Lorraine. Et effectivement, on pourrait avoir cette espèce de petite curiosité pour aller pénétrer dans des lieux qu'on ne pourrait pas s'offrir et dont on pourrait être locataire ponctuellement.
Oui, après, on ne pourra pas accéder à un château.
Vous n'avez pas de château en leasing ?
Pas pour le moment.
Dommage.
Merci beaucoup, Clara Terraz, pour cette présentation du concept de leasing immobilier. Vous l'avez entendu, qui n'a globalement rien à voir avec le leasing automobile, à part voilà, cette capacité à acquérir à la fin. C'est peut-être une solution à un marché et à des profils intéressants, cette solution intéressante à décortiquer avec vous, chère Marie Cœur de Roi. On se retrouve demain